Chapitre 15. Lorsque Louis Richard entra chez Mariette, la jeune ouvrière travaillait auprès du lit de sa marraine qui semblait profondément endormie. La pâleur du jeune homme, l'altération de ses traits, leur expression douloureuse frappèrent la jeune fille et elle s'écria en se levant et allant vivement à lui. « Mon Dieu Louis, il vous est arrivé quelque chose, un malheur peut-être ?»« Un grand malheur, Mariette. » « Avez-vous entendu parler du terrible accident arrivé hier sur le chemin de fer de Versailles ?»« Oh oui, c'est affreux. On parle de je ne sais combien de victimes. »« Je n'en puis presque plus douter. Mon père est au nombre de ces victimes. » Mariette, par un mouvement plus rapide que la pensée, se jeta en sanglotant au cou de Louis et il sentit les larmes de la jeune fille inonder ses joues. Longtemps, les deux jeunes gens restèrent ainsi enlacés, sans prononcer une parole. Louis rompit le premier ce douloureux silence. « Mariette, vous savez dans quels termes je vous ai toujours parlé de mon père. C'est vous dire mon désespoir. Oh, c'est un grand malheur, Louis. À ce chagrin, il n'est pour moi qu'une consolation au monde, c'est votre amour, Mariette. Et de cet amour, je viens vous demander une nouvelle preuve. Parlez, ordonnez, mon cœur est à vous. Il faut nous marier dans le plus bref délai possible. Ah, Louis, pouviez-vous douter un moment de mon consentement? Est-ce donc là cette preuve d'amour que vous me demandiez ? Dit la jeune fille, mais bientôt, comme par réflexion, elle ajouta tristement. Cependant, nous marier avant la fin de votre deuil, qui commence aujourd'hui, est-ce possible? Je viens vous supplier, Mariette, de ne pas vous arrêter à ce scrupule, si respectable qu'il paraisse. Moi, je ferai ce que vous voudrez. Écoutez, Mariette, longtemps, bien longtemps encore, mon cœur sera brisé par les regrets. Le véritable deuil est celui de l'âme, et chez moi, il ne dépassera que trop le terme de convention fixé pour le deuil apparent. J'ai la conscience d'honorer autant qu'il est en moi la mémoire de mon père. C'est pour cela, Mariette, que je crois pouvoir ne pas me conformer à un usage de pure convenance. Croyez-moi, un mariage contracté sous l'impression douloureuse de la perte que j'ai faite aura un caractère encore plus solennel, encore plus sacré, que si nous nous marions dans d'autres circonstances. Vous avez peut-être raison, Louis, mais cependant l'usage. Franchement, Mariette, parce que vous serez ma femme, parce que vous pleurerez mon père avec moi, parce que vous porterez son deuil, parce qu'un lien presque filial vous rattachera désormais à sa mémoire vénérée, en sera-t-il moins pieusement regretté par nous? Et puis enfin, Mariette, dans l'accablement où je suis, vivre longtemps seul, isolé de vous, me serait impossible. Tenez, je mourrais de chagrin. Je ne suis qu'une pauvre ouvrière ignorante des usages du monde. Je ne peux que vous dire ce que je sens, Louis. Tout à l'heure, votre offre de nous marier si tôt m'avait, par réflexion, paru blesser ce que vous appelez les convenances. Mais les raisons que vous me donnez me font partager votre avis. Peut-être ai-je tort. Peut-être le désir d'être à vous, de faire ce qui vous plaît, m'influence-t-il. Je ne sais, Louis, mais à cette heure, je n'éprouverai ni regret ni remords à nous marier le plus tôt possible. Et pourtant, il me semble que j'ai le cœur aussi susceptible qu'un autre. « Oui, et plus ingrat qu'un autre !» s'écria soudain Madame Lacombe de sa voix aigre en se dressant sur son séant. Puis, voyant la surprise se peindre sur les traits de sa filleule et de Louis, elle ajouta d'un ton sardonique « C'est ça, en croyait la vieille endormie, et l'on ne se gênait pas de parler de noces, mais j'ai tout entendu, moi. » « Et il n'y avait rien que vous ne puissiez entendre, madame ?» reprit Louis gravement. Mariette et moi n'avons pas à rétracter une seule de nos paroles. Pardi, je le crois bien, vous ne pensez qu'à vous. Vous n'avez pas d'autre idée en tête que ce damné mariage. Quant à moi, on y pense comme si j'étais dans ma pierre. Aussi, je ne veux pas que... Permettez-moi de vous interrompre, madame, dit Louis, et de vous prouver que je n'ai pas oublié ma promesse. Ce disant, il prit un petit coffret de bois qu'il avait en entrant déposé sur la table, le posa sur le lit de madame Lacombe et lui dit... en lui remettant une clé. « Veuillez ouvrir ce coffret, madame, ce qu'il contient vous appartient. » Madame Lacombe prit la clé d'un air défiant, ouvrit le coffret, jeta les yeux sur son contenu et s'écria éblouie, stupéfiée, « Oh mon Dieu! Ah grand Dieu !» Ce premier moment de stupeur passé, la malade renversa le coffret sur son lit et bientôt elle eut devant elle un monceau de quadruples d'or étincelant. Madame Lacombe ne pouvait en croire ses yeux. Elle regardait les doublons, les maniait, les faisait teinter, en murmurant d'une voix entrecoupée palpitante. « que d'or ! Et c'est du bel et bon or, pour sûr ! Ils ne sonnent pas faux, mon Dieu, les belles pièces ! On dirait des pièces de 100 sous en or ! Quelle grosse somme ça doit faire !» Et elle ajouta avec un soupir. « Il y aurait pourtant là-dedans le repos et l'aisance de la vie à deux pauvres femmes comme moi et Mariette. » « Il y a là, madame, reprit Louis, 15 000 francs environ, ils sont à vous. »«
À moi ? » s'écria la malade. « Comment à moi ?»
Puis il secoua la tête d'un air incrédule et reprit aigrement. « C'est ça, moquez-vous de la vieille. Laissez-moi donc tranquille. Je vous demande un peu pourquoi cet or serait à moi. »«
Parce que cet or, reprit affectueusement Louis, doit servir à vous assurer une pension de 1 200 francs. » Soit qu'après le mariage de Mariette vous vouliez vivre seul, soit que vous préfériez rester auprès de nous, car dès demain notre contrat sera signé en même temps que le contrat de votre rente, et cet acte, vous le recevrez en échange de cet or.
J'ai tenu à vous l'apporter afin de vous convaincre de la sincérité de mes promesses.
Maintenant, madame, puisque vous nous avez écoutés, vous savez les raisons qui me font supplier Mariette de hâter notre mariage. Votre sort est, vous le voyez, désormais parfaitement assuré.
Trouvez-vous encore quelque empêchement à mon union avec Mariette, pour qui vous serez toujours une seconde mère? Dites-le nous, je vous en supplie, madame. Tout ce qui dépendra d'elle et de moi pour vous contenter, nous le ferons. Notre bonheur serait incomplet s'il vous manquait quelque chose. Allons, madame, courage, oubliez vos longues souffrances en pensant à une position plus heureuse. »
À ces bonnes paroles de Louis prononcées d'une voix émue et pénétrante, Madame Lacombe ne répondit rien d'abord, puis elle mit soudain sa main sur son traversin en poussant un soupir douloureux. Louis et Mariette se regardèrent interdits. La jeune fille, s'agenouillant au chevet de la malade, reprit « Ma reine, qu'avez-vous ? » Mais ne recevant pas de réponse, Mariette se penchant davantage, vit des larmes ruisseler à travers les doigts de la malade et s'écria, sans dissimuler sa surprise « Oh mon Dieu, Louis, ma reine pleure !» Depuis 10 ans, c'est la première fois.
Madame, dit vivement Louis, en se penchant vers Madame Lacombe, au nom du ciel, répondez, qu'avez-vous ?
J'ai l'air d'une mendiante. J'ai l'air d'une pensée qu'à l'argent. J'ai honte,
reprit la malheureuse créature, en sanglotant et en continuant de cacher son visage, qui de livide devint pourpre de confusion.
Oui, oui, vous croyez que je ne veux rien faire que pour de l'argent ? Vous croyez que je vous vends Mariette pour le mariage, comme je l'aurais vendue pour la débauche, si j'avais été une mauvaise femme ?
Ma reine ! S'écria Mariette en embrassant la malade avec effusion. Ne dites pas cela.
Pouvez-vous croire que Louis et moi, nous ayons pensé à vous humilier en vous apportant cet argent ? Louis a fait ce que vous lui avez demandé, voilà tout. Je le sais bien, mais que veux-tu, petite ? C'est la peur de mourir dans la rue, de peur de te voir par ce mariage plus malheureuse encore que tu ne l'es, qui m'a fait demander cette rente. Je disais cela, moi, par manière de parler. Je sais bien que je n'ai pas le droit d'en avoir, des rentes. Mais si l'on se figurait ce que c'est que la crainte de se voir comme tant d'autres sur le pavé, à mon âge et infirme. C'est égal, j'ai demandé trop, j'ai eu tort. Qu'est-ce qu'il me faut ? Un matelas dans un coin, un morceau à manger, et surtout que Mariette ne me laisse pas toute seule. Je suis si habitué à la voir aller venir autour de moi avec sa douce petite figure. Si elle n'était plus là, je me croirais dans la nuit de la bière. Et puis il n'y a qu'elle au monde qui puisse être bonne pour une vieille infirme comme moi. Je ne désire pas autre chose que de rester avec Mariette. Mais me voir jeter ce tadeau à la figure, eh bien oui, ça m'a tant humilié là au fond du cœur que j'en ai pleuré, que j'en pleure. »
ajouta-t-elle en essuyant ses yeux du revers de sa main. On a beau n'être qu'un ver de terre, on a son amour-propre aussi. Et pourtant, quand ce mauvais homme de l'autre jour est venu m'offrir de l'or pour que je lui vende Mariette, ça aurait dû m'humilier encore plus qu'aujourd'hui. Eh bien non. Ce que c'est que de nous, ça m'a rendu furieuse, voilà tout. Mais cette fois-ci, oh, c'est bien différent. Je pleure et tu es là pour le dire, petite. Il y a peut-être 10 ans que ça ne m'est arrivé.
Dame, voyez-vous, le fiel s'arrange le cœur, mais ça ne se pleure pas.
Pleurez, pleurez, ma reine. Ces pleurs-là font du bien.
Allons, ma bonne madame Lacombe, ayez confiance dans l'avenir, reprit Louis, de plus en plus attendri. Mariette ne vous quittera jamais. Nous ne vivrons pas dans le luxe, mais dans une modeste aisance. Mariette continuera de vous aimer comme sa mère, et moi, je vous aimerai comme un bon fils.
La malade, après quelques instants de silence, reprit, tâchant de lire au plus profond du cœur des jeunes gens.
« C'est pour de bon ce que vous me dites ? Vous me prendrez avec vous, bien vrai ?»
À cette nouvelle preuve de l'invincible défiance de cet infortuné, défiance hélas, légitimée par l'acharnement du malheur, Louis et Mariette échangèrent un regard de compassion. La jeune ouvrière prit la main de la malade et lui dit de sa voix la plus tendre, la plus touchante,
« Oui, ma reine, nous vous garderons avec nous, nous vous soignerons, ainsi que notre mère. Vous verrez comme nous vous rendrons heureuse. »«
Vrai, oh bien vrai !»«
Vrai !» ajouta Louis avec expansion, « bien vrai, bonne mère !»
La voix, l'accent, la physionomie de Louis et de Mariette eussent convaincu le scepticisme en personne. Mais hélas, une créance absolue, complète, un bonheur inespéré ne pouvait pénétrer, attendrir aussi brusquement cette pauvre âme depuis si longtemps corrodée par la souffrance. La malade répondit donc en soupirant et en tâchant de cacher son doute involontaire, de crainte d'affliger les deux jeunes gens.
« Je vous crois, mes enfants, oui, je crois que M. Louis a de l'argent. Je crois que vous avez tous les deux de la bonne amitié pour moi. Mesdames, vous savez, au nouveau, tout est beau. »
En commençant, on a comme ça bien de la bonne volonté, et puis plus tard, ça change. Enfin, nous verrons.
D'ailleurs, je serai peut-être gênante pour vous. De nouveau mariés, ça aime à être seul, et une vieille sempiternelle comme moi, ça déparera votre gentil ménage. Vous craindrez que je vous bougonne, vous vous lasserez de moi. Enfin, qui vivra verra. »
Mariette, pénétrant la pensée de la pauvre vieille, lui dit avec un accent de douloureux reproche,
« Ah, ma reine, vous doutez encore de nous, pourtant.
Faut me pardonner, mes enfants, c'est plus fort que moi, » répondit la malheureuse en sanglotant.
Puis, souriant, d'un air navré, elle reprit,
« Ça vaut peut-être mieux pour moi que je doute, car si après 50 ans de peine et de misère, j'allais tout d'un coup croire au bonheur, ça me rendrait peut-être folle. »
Et elle ajouta avec un accent d'inexprimable amertume,
« Ma foi, ça ne m'étonnerait pas. J'ai toujours eu tant de chance, moi. »
Ainsi s'achève le premier tome de L'Avarice, 6e des 7 péchés capitaux d'Eugène Sue.